un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Canal Académie vous propose dans cette émission d'entendre la conférence donnée par Jean Cluzel de l'Académie des sciences morales et politiques lors du 400e carrefour du club Position le lundi 23 février 2007. Cette conférence avait pour titre « Jeanne d'Arc, la politique par d'autres moyens ». Jean Cluzel a bien voulu reprendre l'essentiel de cette conférence pour Canal Académie. Je l'en remercie. Avant de lui laisser la parole, je voudrais préciser deux points. D'abord que le club Position est un club de réflexion né en 1955 à Bransat dans l'Allier, à l'initiative de Jean et Madeleine Cluzel, et qui depuis plus de 50 ans, sans interruption, propose chaque mois des carrefours auxquels assistent environ 300 personnes. Ces carrefours sont animés par un conférencier d'audience nationale sur des sujets variés d'actualité ou de société, en proposant une réflexion en profondeur, dans un esprit d'échange et de dialogue. Le sénateur de l'Allier, Gérard Dériot, veille aujourd'hui à ce que cet esprit de Bransat, si particulier, continue de marquer ses carrefours. Et je voudrais dire d'autre part que cette conférence, intitulée « Jeanne d'Arc, la politique par d'autres moyens », porte le même titre que l'ouvrage publié par Jean Cluzel aux éditions Economica. Je laisse donc la parole à Jean Cluzel pour vous présenter son livre de la même manière qu'il l'a présenté au carrefour du club Position, c'est-à-dire en plusieurs questions-réponses. Les voici. Et tout d'abord, Jean Cluzel, bonjour.
Bonjour, et c'est avec joie que je prends la parole à Canal Académie. Merci.
Alors,
de tout cœur.
Première question, pourquoi en 2007 un livre consacré à Jeanne d'Arc?
Première raison, parce que notre siècle, le 21e, a de nombreux points communs avec le 15e. Ce sont deux époques où tout bouge, celle des caravelles et des grandes découvertes au 15e et celle d'Internet au 21e siècle. Une deuxième raison, je l'emprunte à André Mauroy pour qui, je le cite, « Jeanne d'Arc est à la fois le miracle le plus surprenant de l'histoire et la suite d'actes politiques la plus raisonnable. » Je répète, la suite d'actes politiques la plus raisonnable. Combien Mauroy avait raison. Mais Jeanne d'Arc fut pratiquement inconnue jusqu'au milieu du XIXe siècle, lorsque les deux procès de condamnation en 1431 et de réhabilitation en 1456 furent enfin intégralement publiés par Quicherat, à l'invitation de Guizot, le ministre de Louis-Philippe. Depuis lors, un nombre impressionnant de livres, de poèmes, de pièces de théâtre et de films lui furent consacrés. Bien sûr, sa vie publique, la vie publique de Jeanne d'Arc n'a duré que 2 ans, un de combat, un de prison. S'il est vrai que nous ignorons rien de ses idées, rien de sa spiritualité, par contre, aucun dessin, aucune peinture la représentant nous sont parvenus. C'est pourquoi à Rouen, en mai 1964, Malraux, André Malraux, a pu s'écrier « Ô Jeanne, sans sépulture et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. » Troisième raison, parce que la fidélité d'Orléans, la ville d'Orléans, qui chaque année, depuis le 8 mai 1429, fête sa délivrance, c'est une fidélité unique au monde. En mai 2007, il y a quelques jours, Orléans a fêté le 578e anniversaire de sa délivrance. Une telle fidélité est unique en dehors des religions et elle conduit tout naturellement à étudier Jeanne d'Arc sous l'angle de la politique, fût-ce en se rapprochant de Clausewitz, 1780-1831, selon lequel, je le cite, « la guerre n'est que le prolongement de la politique par d'autres moyens ». Il m'a semblé que, avant ce général prussien, ce théoricien militaire, Jeanne d'Arc annonce le prolongement de la politique par d'autres moyens encore, ceux de la prophétie. Et puis, si vous me permettez une dernière raison, Parce que l'influence de Jeanne d'Arc, et c'est la raison essentielle de ce livre, l'influence de Jeanne d'Arc s'est étendue pendant 70 ans, de 1429, son entrée sur la scène politique, à 1498, la sortie de Jeanne de France, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une continuité politique inhabituelle dans l'histoire de notre pays.
Alors Jean Cluzel, rapidement, pouvez-vous résumer quelle est la situation de la France en 1429 ?
Vous avez bien raison de m'inviter
à résumer.
Au résumé, parce que cela remonte en réalité bien au-delà du début de la guerre de Cent Ans. Cela remonte à 1054 et cela allait durer pendant trois siècles. Car ceux qui allaient former la France et ceux qui allaient former l'Angleterre s'opposent d'abord en d'interminables conflits féodaux qui s'expliquent essentiellement par l'importance des possessions anglaises, des possessions des Plantagenets en terre française, puisque les Plantagenets sont d'origine française. Puis la guerre entre les deux royaumes, cette fois, d'Angleterre et de France, est marquée par quatre terribles défaites françaises. Je les cite, 1340, l'Écluse, en Flandre, 1346, Crécy, dans le Nord, 1356, Poitiers, et 1415, Azincourt, à nouveau dans le Nord. Une telle série de défaites est d'autant plus surprenante que les forces respectives sont alors à l'avantage des Français. Dès le XIVe siècle, l'armée du roi de France peut aligner près de 80 000 hommes, alors que l'Anglais n'en compte qu'une dizaine de milliers, mais ils sont augmentés après le débarquement de troupes recrutées par l'Anglais sur ces terres françaises. Pourquoi ces défaites ? Eh bien parce que depuis le milieu du XIIe siècle, les rois d'Angleterre qui, dans le royaume de France, sont, rappelons-nous bien, sont ducs de Guyenne, comtes d'Anjou, ducs de Normandie. Ces rois d'Angleterre possèdent sur le continent un territoire pratiquement aussi grand que celui du roi de France. Mais la différence, c'est qu'en Angleterre, le roi est fort. C'est qu'en Angleterre, l'aristocratie est contrôlée, que le royaume est homogène, que la loi est commune pour tous, que la cour est le centre moteur du pays. Tout cela explique les raisons de la supériorité anglaise. Elle est, chacun l'a compris, d'organisation, mais elle est aussi militaire. Car depuis le XIIIe siècle, les fameux archers gallois tiennent une grande place dans l'armée anglaise. À l'arc traditionnel des paysans saxons, dont la portée est, on le sait aujourd'hui, trop courte, s'est substitué l'arc long en bois d'ive des Gallois, capable de tirer, au rythme de 6 par minute, des flèches à plus de 60 mètres et qui peuvent traverser une côte de maille. Et il faut savoir que depuis Édouard Ier, chaque petit propriétaire anglais doit posséder un arc long et chaque père en enseigner le tir à ses fils. Voilà pour l'Angleterre. Mais après tant de conflits entre les deux royaumes, le traité de Troyes, signé en mai 1420 par Charles VI de France et Henri V d'Angleterre, réunit les deux monarchies sous une seule couronne, l'anglaise. Henri V d'Angleterre épouse Catherine, fille de Charles VI de France, mais, en 1422, Henri V meurt en août, Charles VI meurt en octobre. Dès lors, la France a deux rois, Henri VI de France et d'Angleterre âgé de quelques mois, le dauphin Charles, fils de Charles VI, qui est réfugié à Bourges depuis 1418, prend le nom de Charles VII, mais, souvenons-nous bien, aucun n'est à cette date, 1422, sacré roi de France.
Alors Jean Cluzel, si l'on ne dispose pas de portrait de Jeanne d'Arc, comme vous l'avez souligné, néanmoins, quel portrait tracez-vous vous-même de Jeanne d'Arc ?
Vous avez raison, il faut essayer de comprendre, en sachant que sa figure et son souvenir n'ont cessé d'intéresser, d'intriguer, voire de fasciner, en sorte que son image est pour les uns vénérée, pour d'autres admirée, pour d'autres encore critiquée, voire contestée ou raillée. Mais elle est toujours présente dans notre histoire. C'est vrai que sa vie est aussi exemplaire que déroutante. Paraissant venue d'un autre monde, elle est dans l'histoire, car, à l'évidence, elle en infléchit le cours, mais elle est hors de l'histoire, puisque l'intervention divine ne peut être prise en compte par l'historien. Philippe Contamine, mon confrère, membre de l'Institut, au titre de l'Académie d'inscription et belles-lettres, fait autorité, c'est un spécialiste de Jeanne d'Arc. Je le cite. « Je ne crois pas que l'on puisse comprendre Jeanne d'Arc dans son action et avec le rayonnement qui émanait d'elle, si l'on oublie qu'elle était vue, ou plutôt qu'elle se croyait elle-même, comme une prophétesse. » C'est vrai que Jeanne d'Arc est bien l'inspiratrice pour le royaume français d'une exceptionnelle continuité politique. La lettre aux Anglais en 1429, avant la délivrance d'Orléans, la relation du procès en condamnation rapporte les trois promesses qu'elle a faites guidées par les voix. Premièrement, elle authentifie sa mission en libérant Orléans. Deuxièmement, elle conduit Charles, reconnu comme véritable dauphin, se faire sacrer à Reims. Troisièmement, elle prophétise l'indépendance du royaume. Alors sachons bien que si un prophète annonce, il ne réalise pas. Je veux dire pas lui. Lorsque les temps arrivent, d'autres accomplissent. Et pour reprendre le mot de Pascal, ces autres dévoilent, je cite Pascal, le spirituel sous le charnel. Et par conséquent, pour être mené à son terme, la trilogie johannique, signe, geste, prophétie, bénéficie durant 70 ans, 1429-1498, je le répète, d'une continuité inattendue en ce royaume et, si on me le permet, de nos jours également. Mais revenons à Jeanne d'Arc, à ses bâtisseurs que furent Charles VII après le bûcher, et Louis XI, puis à ses deux filles, Anne et Jeanne de France. Si l'épopée de Jeanne d'Arc n'a duré que 2 ans, elle prouve néanmoins que seule la force morale permet de lutter efficacement contre la tendance naturelle des choses à aller vers le pire.
Jean Cluzel, vous parliez de la politique que Jeanne d'Arc a influencée. Quelle est l'intuition politique de Jeanne d'Arc ?
À cette question, la réponse est simple. Le couronnement et le sacre sont des cérémonies religieuses indispensables en France, indispensables à la transmission du pouvoir royal. Renouvelées à chaque génération, le geste du sacre et la caution de l'Église, une sorte de sacralisation empruntée en réalité aux Visigoths et à travers eux, très lointainement, à la pratique d'Israël. Il ne confère pas la légitimité, il lui donne une autre dimension et assigne au roi une place d'exception dans la Jérusalem terrestre. Telles sont, me semble-t-il, les origines de l'intuition politique de Jeanne. Il fallait que le dauphin fût couronné et sacré à Reims avec l'onction du crème de la Sainte Ampoule. Le dimanche 8 mai 1429, en délivrant Orléans, Jeanne a donné le signe qui a permis à Charles VII de lui faire confiance pour aller à Reims en traversant des territoires toujours aux mains de ses adversaires et de ses ennemis. Elle, dont la pureté a été confirmée par les deux examens, examen physique, examen spirituel de Poitiers, elle, qui, à l'écoute de ses voix, a donné confirmation de sa mission, a pu conduire le roi à Reims, et c'est ainsi qu'elle a agi en authentique prophète. Telles sont les deux premières composantes de la trilogie johannique. À partir du sacre, tout concourt à justifier la place du roi par les effets de l'onction sacrée. Le roi doit son charisme à cette onction considérée comme une intervention directe de Dieu. C'est ainsi que se justifie l'intuition politique de Jeanne d'Arc.
Alors, brièvement aussi, rappelez-nous les principales étapes de ce qui va se passer après ce sacre de Reims.
Oui, c'est-à-dire la capture, le procès, le bûcher, la réhabilitation. Rapidement, le 23 mai 1430, devant Compiègne, Jeanne est faite prisonnière par un écuyer de Jean de Luxembourg qui la cède à son suzerain le duc de Bourgogne, qui la rétrocède aux Anglais contre le paiement d'une rançon de 10 000 livres tournois. 10 000 livres tournois, je répète parce que c'est amusant. Ces 10 000 livres tournois ont été payés par les Normands qui les ont donnés aux Anglais. Dès l'annonce de la capture, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a fait parvenir la nouvelle à toutes ses bonnes villes et à Paris. Pourquoi l'a-t-il fait ? C'est parce que il importe aux Bourguignons, rassemblés autour de leur duc, comme aux Anglais, il importe de nier le caractère divin de la mission de Jeanne et d'en montrer la supercherie. Et dès lors, cette capture doit prouver que Dieu n'était pas avec elle. Et c'est pourquoi le procès de Jeanne peut commencer. Il dure 5 longs mois, du début janvier à fin mai 1431. Si les documents de ce procès sont, depuis le milieu du XIXe siècle, parmi les plus célèbres de notre histoire, ils en sont aussi parmi les plus émouvants. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils permettent de comprendre la personnalité de Jeanne et sa place tout au long de ce procès politique. La première partie est consacrée à l'instruction avec enquête et interrogatoire jusqu'au 26 mars. La deuxième en constitue le cœur et se termine le 24 mai par la mise en scène de l'abjuration. Une courte conclusion permet enfin au piège de se refermer en occupant les deux derniers jours qui précèdent le bûcher 30 mai 1431. En fait, et pour répondre à votre question, c'est un modèle de procès politique. On se croit revenu au procès de Moscou ou de Prague ou d'ailleurs. Modèle de procès politique de tout temps, un procès politique a pour unique objet d'entraîner le présumé coupable à se flétrir lui-même en faisant aveu de sa culpabilité. Si bien, et c'est cela qui est important, si bien que le juge ne porte pas la responsabilité de la condamnation. Il suffit donc à Rouen de démontrer au tribunal que Jeanne n'est pas l'envoyée de Dieu, mais qu'elle est une sorcière, un suppôt du diable, et surtout qu'elle a pris l'habit d'homme pour être avec les hommes, permettez-moi de tout dire, d'être avec les hommes comme toutes les femmes à soldats. Diriger Jeanne vers le bûcher n'est pas pour les Anglais simple acte de guerre. Un coup d'épée suffirait. C'est une affaire politique qu'il faut traiter comme telle. Le procès en condamnation de Jeanne est par conséquent un chef-d'œuvre de partialité sous les apparences de la régularité des procédures. Au fond, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de cette courte réflexion, au fond, c'est un procès auquel sont assignés deux objectifs. Le premier, mettre fin à la panique des Anglais et des troupes qui se débandent à la seule évocation de Jeanne et de son étendard, et par conséquent de faire cesser les frayeurs propagées de France à l'outre-Manche. Le second objectif, lui, est politique. Il s'agit d'annuler les vertus du sacre de Reims en transformant l'envoyé de Dieu en suppôt de Satan. Puis nous arrivons à ce qu'il faut bien appeler la reconquête de son royaume par Charles VII, longtemps après le bûcher, puisqu'il y a deux périodes dans l'histoire de Charles VII, avant le bûcher, où il est un personnage un peu inconsistant, un peu falot, et puis après le bûcher, où là, il essaie de saisir tout ce qu'a voulu lui dire Jeanne d'Arc et tout ce qu'elle a fait pour lui et pour la France. Bien sûr, Jeanne d'Arc morte, les Anglais pouvaient espérer de reprendre en France leur marche victorieuse, mais il n'en a rien été. Et ils s'aperçoivent rapidement que leur allié, le duc de Bourgogne, n'est plus aussi fidèle que par le passé. Mais là, nous retrouvons l'histoire qui se répète depuis toujours. On a des alliés et puis on ne s'entend pas très bien avec eux et puis ils ne vous paient pas assez cher. Alors on va chez l'ancien adversaire qui est devenu le fidèle. Et voilà, c'est pourquoi le duc n'a rien fait pour empêcher le couronnement et le sacre de Charles VII. Et de plus, il signe avec lui une trêve générale de 6 ans. Et enfin, tout se termine le 5 août 1431. Vous voyez, les choses sont allées vite. Les Bourguignons se rangent sous l'étendard du roi Charles VII. Si bien que Charles VII a les mains libres pour engager la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Une enquête royale est alors diligentée et cette enquête confirme que les juges se sont montrés d'une totale partialité et les témoins d'une docilité non moins entière. On se croirait revenu au XXIe siècle. Et de plus, Jeanne a été traitée non en prisonnière de guerre, ce qu'elle est lors de sa capture, mais sans preuve valable comme une hérétique. Mais il n'en demeure pas moins qu'un tribunal de l'Inquisition, ayant prononcé la condamnation, seule l'Église pouvait décider de la réouverture du procès. C'est ce qui s'est passé. Et le 7 juillet 1456, la grande salle du palais de l'archevêque de Rouen résonne des mots de la sentence en nullité. Jeanne est donc lavée de toute infamie.
Jean Cluzel, vous considérez que l'une des filles de Louis XI, sa fille aînée, Anne de France, que l'on connaît aussi sous le nom d'Anne de Beaujeu, a pris la succession politique de Jeanne d'Arc. Pouvez-vous nous expliquer comment ?
Oui, non seulement sa succession politique, mais spirituelle en même temps. Elle est née en 1461, elle est, vous venez de le dire, la fille aînée de Louis XI. Et à la mort de son père, en août 1483, Anne n'a que 22 ans. Pourquoi l'appelle-t-on également Anne de Beaujeu ? C'est parce qu'elle est l'épouse de Pierre de Beaujeu, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, et qui sera futur duc de Bourbon, et du reste, elle terminera comme duchesse de Bourbon. Alors, en 1483, quelle est la responsabilité, quel est le rôle d'Anne de France ? Tout simplement de sauvegarder la couronne et par conséquent de s'opposer aux grands féodaux. Alors comment a-t-elle fait ? Eh bien, il lui a fallu s'imposer au Conseil royal comme régente, mais régente non pas en titre, régente en fait. Et c'est là, voyez-vous, où l'on se rend compte du rôle de cette personne. Pourquoi ? Parce que son père ne l'a pas désignée nommément comme régente, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas en raison de la ligne tracée bien longtemps avant, en 1374, par son grand-père Charles V. C'est tout simplement toujours, hélas, l'application de la loi salique. Il ne pouvait pas la désigner, mais il s'est arrangé pour qu'elle s'occupe de l'éducation de son frère, le jeune dauphin Charles, qui deviendra Charles VIII. Et en définitive, si Charles VII, après le bûcher, et Louis XI, pendant toute sa vie, ont appliqué la stratégie de Jeanne d'Arc, eh bien, Anne de France a permis à cette stratégie de se poursuivre, l'a poursuivie elle-même et a passé ensuite la responsabilité, si vous me permettez ce terme, à sa sœur Jeanne de France. C'est ce que l'on appellera plus tard tout simplement la politique des frontières naturelles. À la suite de son père et de son grand-père, Anne de France agit donc en politique, mais aussi en disciple de Jeanne d'Arc, puisque par rapport à Charles VII et à Louis XI, elle ajoute la fidélité spirituelle à la fidélité politique. Et entre 1483 et 1491, son rôle est déterminant, car elle a consolidé l'unité du royaume.
Jean Cluzel, après Anne de France, il y a une autre femme que vous considérez comme ayant succédé à Jeanne d'Arc, ayant pris la succession politique et spirituelle, mais à sa manière, c'est l'autre fille de Louis XI, la sœur de Anne de France, Jeanne de France.
L'histoire a un peu oublié Anne de France et totalement oublié Jeanne de France après elle, le troisième enfant de Louis XI. Âgée de 24 jours, elle est engagée par son père en vue d'un mariage avec son cousin, le jeune Louis d'Orléans, âgé de 2 ans. À l'époque, les enfants de famille royale ou de famille princière étaient compris comme des pions sur un échiquier de la puissance ou de l'influence. Et Jeanne de France a joué, ce sera en 1498, un rôle important dans l'histoire de France. Après avoir eu, dit-elle vers les 7 ans, une révélation, elle a entendu la Vierge s'adresser à elle. Et il lui fut avis que la Vierge Marie lui dit en son cœur, « Avant ta mort, tu fonderas un ordre en mon honneur. » Et oui, mais elle a été mariée. Comment va-t-elle faire ? Le sacre de son mari Louis XII, ancien duc d'Orléans, a lieu à Reims le 27 mai 1498, puisque quelques jours auparavant, son frère, le roi Charles VIII, s'est tué en se heurtant le front sur un linteau au château d'Amboise. Jeanne, bien que reine de France, n'y est pas conviée, c'est sa sœur Anne qui la remplace, mais il faut faire état du contrat de mariage qui avait uni Charles VIII à Anne de Bretagne et d'une clause stipulant que si Charles VIII décédait avant son épouse, cette épouse devait épouser le successeur de Charles VIII et par conséquent, si la France voulait que la Bretagne restât attachée à la couronne, il fallait que Louis XII épousât la reine Anne de Bretagne. Mais il était lui-même marié, alors tout simplement, à quoi pense Louis XII ? Sinon qu'il faut faire casser son mariage avec Jeanne de France. C'est alors que s'ouvre le troisième procès de cette période de l'histoire nationale, ce qui, si vous me le permettez, fait de Jeanne de France une Antigone chrétienne. Louis XII prétend que son mariage a été célébré sous la contrainte, qu'il n'a pas été consommé et que par conséquent, il peut être annulé par l'autorité religieuse. C'est alors parole contre parole, celle de Jeanne de France contre celle de Louis XII, et c'est son silence qui inscrit Jeanne de France dans la lignée d'Antigone. Sa force morale est non moins grande, elle est haute, chacune est simplement fidèle à sa conscience. La force de Jeanne de France, fille de Louis XI, se perçoit dans son attitude, nulle révolte, nulle concession, mais la certitude d'agir en vérité selon les lois divines. Fille de roi, elle refuse de se soumettre à un examen qui mettrait en doute sa parole et s'en remet au serment d'un homme dont la parole, elle, n'est pas de vérité. Elle est Antigone, car elle ne se compromet pas avec le parjure et son silence signe son inscription dans l'histoire. Les bienfaits de la communauté politique dont vous m'avez parlé tout à l'heure, eh bien, c'est que grâce à Jeanne d'Arc, et en quelque 70 ans, grâce après Jeanne d'Arc à Charles VII, à Louis XI, à Anne de France et à Jeanne de France, le royaume, en assurant sa cohésion, a trouvé la puissance, les princes calmés, le pays pacifié, le rattachement de la Bretagne définitivement assuré, les menaces de guerre extérieure éloignées, les finances rétablies, le fonctionnement de l'État maîtrisé, tel est l'impressionnant bilan de la politique conduite de façon continue de 1429 à 1498. Et c'est ainsi qu'à la fin du XVe siècle, la France est le pays le plus puissant et le mieux organisé d'Europe. Finalement, nos deux héroïnes seront canonisées. Jeanne d'Arc en 1920 et Jeanne de France en 1950. Alors on pourrait dire comment Jeanne d'Arc a été redécouverte. En deux mots, c'est en 1841 que le protestant François Guizot, au nom de la Société d'Histoire de France, charge un jeune et brillant chartiste Jules Quicherat de préparer l'édition complète des procès de Jeanne d'Arc, ce qui n'avait jamais été fait. C'est un point sur lequel il faut insister. Disons quelques mots d'Henri Vallon, qui a non seulement été le père de la Troisième République par le fameux amendement Vallon, chacun le sait, je le cite, « Le président de la République est élu par le Sénat et par la Chambre des députés, réuni en Assemblée nationale, il est nommé pour 7 ans, il est rééligible, et ce qui fait encore sourire de nos jours, c'est que cet amendement Vallon a été voté à la Chambre des députés par une voix de majorité. » Bien, il a été également le biographe de Jeanne d'Arc, qui pour lui est une sainte et par sa mort une martyre, martyre de son amour, de la patrie, de sa pudeur et de sa foi. Alors, Jeanne d'Arc au XXe siècle, nous pourrions en parler également, mais peut-être faut-il tout simplement en arriver à notre époque actuelle, c'est-à-dire au XXIe siècle, pour comprendre que, en 2007, l'Europe est toujours à la recherche de son unité. Au début de notre siècle, en effet, nous savons l'intérêt et les méfaits de l'accélération de la mondialisation avec l'arrivée sur la scène planétaire des géants de l'Asie. Et c'est donc à court terme, on l'a dit souvent sur cette antenne, mais il faut le répéter sans arrêt, c'est à court terme que se joue l'avenir de l'Europe et de la France en son sein. Je voudrais dire que par-dessus les siècles, la voix d'une autre femme rejoint alors celle de Jeanne d'Arc. Mais il ne s'agit plus maintenant de l'unité de la France, il s'agit de celle de l'Europe. En novembre 2004, en effet, mon confrère et ami Michel Albert, que vous avez eu récemment sur cette antenne, actuel secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, mon confrère et ami donc invite la lettonne Sandra Kalniete, née dans un goulag. Il l'invite à prendre la parole en séance publique de cette académie. Et que nous dit-elle, cette lettonne ? Elle nous dit que pour elle, la création de l'Europe ne date pas seulement du 9 mai 1950, ce fameux jour de la déclaration de Robert Schuman, mais qu'elle date aussi du 1er mai 2004, jour de l'entrée de 10 pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union. Parce que, ajoute-t-elle, ce jour-là, l'Europe a démontré qu'elle avait enfin surmonté, je la cite, « sa damnation historique pour des guerres incessantes entre voisins et qu'elle est enfin devenue un continent de paix. L'Europe, c'est aussi une partie de ce monde qu'elle ne domine plus et au sein duquel elle doit néanmoins tenir sa place, par l'unité de ses peuples et pour la continuité de sa civilisation, à la condition, puisque l'avenir n'est jamais assuré, à la condition d'avoir conscience que seule la force morale permet de lutter efficacement contre la tendance naturelle des choses à aller vers le pire, et j'en terminerai par là, comme au XVe siècle, Jeanne d'Arc sut au service de la France en apporter la preuve.
Merci Jean Cluzel de l'Académie des sciences morales et politiques d'avoir bien voulu reprendre pour Canal Académie les points essentiels de sa conférence consacrée à Jeanne d'Arc. Vous trouverez l'intégralité du texte sur le site de Canal Académie, mais vous trouverez également sur notre site toutes les informations vous permettant de connaître les grands moments du club Position, puisque cette conférence avait été prononcée dans le cadre de ce club, un club qui édite sous la plume de Jean Cluzel la revue Position et Média, et les références aussi du site internet que Jean Cluzel a ouvert sur ce livre consacré à Jeanne d'Arc. Donc toutes ces références seront sur notre site et vous aurez aussi tous les moyens de vous procurer cet ouvrage. Merci.
C'est moi qui vous remercie.